Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15 150, 9 525 et 11 785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Bonsoir, chers auditeurs et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Notre émission va commencer par le journal suivi de commentaires et l'histoire d'aujourd'hui.
La voix de l'Indonésie, les informations.
Bonsoir, chers amis, merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le journal. Et on commence avec les titres. Le cinquième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ou ONU, dit, le ministère des Affaires étrangères indonésien organise un symposium. Le président Joko Widodo rencontre le PDG des entreprises KONU, Anandi. L'Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont fait de la sécurité un couche dans la mer de Sulu. L'Afghanistan apprend la paix de l'Indonésie. Sulawesi du Sud étudie la possibilité d'exporter des fruits vers l'Arabie Saoudite. Larantuka, Lembata et Alor sont proposés comme les zones économiques spéciales. Chers amis, nous présentons maintenant le journal complet. Dans le cadre du 5e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, ou ONU, le ministère indonésien des Affaires étrangères en coopération avec le représentant de l'ONU en Indonésie, a organisé un symposium intitulé « Construire sur la dynamique, renforcer le rôle de l'industrie pour le développement durable ». Le symposium a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, le mardi 13 décembre 2016. Il vise à informer au public sur le programme de l'ONU qui vise à accroître la valeur et la productivité de l'industrie. Le conseiller de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, M. Ridwan Hassan, dans un discours à l'ouverture du symposium, a déclaré que le 5e anniversaire de la fondation de l'ONU a souligné le rôle important dans l'industrie pour le développement durable.
The symposium is in fact part of the government's commitment.
Le symposium est une preuve de l'engagement du gouvernement de renforcer et d'accroître la capacité industrielle, ce qui peut contribuer à la réalisation du développement durable. Selon M. Ridwan Hassan, l'industrie a le rôle dans l'élimination de la pauvreté, l'autonomisation des femmes et l'inclusion sociale, en plus d'augmenter la sensibilisation du public liée au rôle du gouvernement dans l'application de l'ordre du jour en 2030, ce symposium a souligné l'importance de l'innovation, l'information et la technologie dans la réalisation des objectifs de développement durable. Ce symposium a été assisté par des représentants de l'ambassade des API et institutions apparentées. Le président indonésien Joko Widodo a rencontré 20 dirigeants des entreprises KONU Anandi, comme cité par Antara dans la deuxième jour de la visite de travail à New Delhi. Mardi, le président Joko Widodo avec son épouse Madame Iriana Joko Widodo ont effectué une réunion amicale avec la communauté indonésienne qui habite à Anandi. En outre, le président et sa suite sont partis pour Téhéran mardi après-midi. Le président et Madame Iriani sont accompagnés d'un certain nombre de ministres du cabinet de travail, y compris le ministre de coordination des affaires économiques, Darmin Nasution, le secrétaire d'État Pratikno, ministre des Affaires étrangères Madame Retno Marsudi et ministre du Commerce Enggar Tiarso Lukito. Le gouvernement de l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie commencent à faire la sécurité multicouche dans la mer de Sulu depuis le 23 novembre 2016 sur la base de l'accord trilatéral signé à Manille, les Philippines. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal, mardi a déclaré que la sécurité en cause sur la base de l'accord trilatéral d'Indonésie, les Philippines et la Malaisie se compose des patrouilles conjointes, les patrouilles coordonnées et la patrouille convoi. La sécurité maritime par l'accord trilatéral a été initiée par le gouvernement indonésien pour répondre à la piraterie dans les eaux de Sulu, bordant la Malaisie et les Philippines. Selon M. Muhammad Iqbal, les patrouilles conjointes impliquent des instruments de sécurité maritime des trois pays, des patrouilles coordonnées menées par chaque pays en informant leurs positions respectives, de sorte qu'il n'y a pas de lacunes qui peuvent être exploitées par les pirates dans les eaux de Sulu. Cependant, les patrouilles de convoi sont effectuées notamment pour escorter les navires de pêche qui n'ont inclus des lignes de couloirs maritimes. Selon M. Muhammad Iqbal, les trois sécurités rendent difficile pour les pirates de l'air de se déplacer. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Un conseiller et un membre exécutif du Conseil supérieur de la paix de l'Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, a déclaré que les Indonésiens peuvent vivre en harmonie et en paix dans divers différents peuvent être un modèle pour la paix en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré Abdul Hakim Mujahid lors de rencontrer le vice-président indonésien Yusuf Kalla mardi au bureau du vice-président Jakarta. Il a dit qu'il avait discuté de la façon d'atteindre la paix et la réconciliation en Afghanistan en étudiant l'expérience de l'Indonésie où il y a une harmonie dans la différence. Abdul Hakim Mujahid a ajouté que le gouvernement et les divers éléments de la société dans les efforts en Afghanistan pour créer de la paix et la réconciliation dans son pays. Il croit aussi que la paix sera réalisée dans le pays. Selon lui, il existe une coopération avec l'Indonésie pour presque 99% de l'Afghanistan étant musulman qui est devenu une partie des frères musulmans. La province de Sulawesi du Sud a l'intention d'exporter des fruits vers l'Arabie Saoudite. Le marché aux fruits en Arabie Saoudite est potentiel, notamment avec l'existence des pèlerins Umrah de l'Indonésie qui est relativement grand. Selon le consul général indonésien à Jeddah, M. Heri Saripuddin, la part de marché des fruits en Arabie Saoudite est très potentielle. Sur la base de données des Nations Unies sur les statistiques commerciales des produits de base 2015, la valeur des exportations de fruits indonésiens chaque année a augmenté significativement. M. Heri Saripuddin, lors de la réception de la délégation d'investissement et de commerce du ministère de l'Agriculture de Sulawesi du Sud, à Jeddah, a déclaré mardi que la tendance de l'augmentation de la valeur des exportations de fruits a montré la part des fruits indonésiens du marché sont très grands. Le gouverneur de Nusa Tenggara Est, M. Frans Lebu Raya, a demandé au gouvernement central de réaliser Lembata, Alor et Larantuka comme zone économique spéciale. Dans son discours, il a affirmé que Lembata, Alor et Larantuka avaient un fort potentiel économique à partir du secteur du tourisme, maritime, l'agriculture et plantation. France a souligné spécialement le potentiel dans le secteur du tourisme de ces trois régions. Mais il a admis l'infrastructure pour la connectivité de trois régions avec d'autres régions était encore très limitée. Par conséquent, il a demandé au gouvernement central d'ouvrir l'isolement physique de cette région afin que les gens soient venus à cette zone. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le commentaire intitulé « Attentat de nouveau ». Week-end dernier, l'atmosphère tendue a frappé la Turquie et l'Égypte parce que plusieurs explosions ont eu lieu dans les deux pays. Même au Caire, une bombe a explosé dans un lieu de culte et au moins 25 personnes sont mortes. À Istanbul, 44 personnes ont été tuées par une bombe qui a explosé à deux endroits. Les autorités égyptiennes ont accusé un membre des frères musulmans d'être le cerveau des explosions dans l'église copte égyptienne au Caire. Même le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a nommé le cerveau de l'attentat suicide au Caire. Le cerveau, selon un communiqué du ministère intérieur de l'Égypte, ont fui vers un pays du Golfe. Lors de la réalisation d'une enquête, les forces de sécurité égyptiennes ont découvert deux bombes qui sont prêtes à exploser et matériel de fabrication de bombes dans la casette du suspect et de son groupe. Les autorités ont dit qu'il y avait quatre autres noms associés avec le suspect. Les frères musulmans ont nié toute implication dans les attentats. En Turquie, les forces de sécurité ont arrêté environ 200 membres du Parti démocratique populaire pro-kurde parce que prétendument avaient des liens étroits avec la milice du Parti des travailleurs kurdes ou PKK. L'arrestation tenue après que l'un des aides du Parti du PKK, les Forces de la Liberté du Kurdistan ou TAK, a revendiqué la responsabilité des attentats suicides jumeaux samedi 10 décembre en dehors du stade à Istanbul. En représailles, le gouvernement turc a lancé des frappes aériennes dans les proches du PKK dans le nord de l'Irak dimanche 11 décembre. Les attaques turques ont détruit le siège des militants kurdes et les milices du PKK dans la région principalement kurde du nord de l'Irak se sont rebellés contre la Turquie depuis 30 ans car ils veulent un gouvernement kurde plus autonome dans la région kurde. L'escalade des attentats à la bombe, soit par télécommande, soit par attentat suicide, s'est produite dans divers endroits sans discrimination. Quelle que soit la tension et le motif des autres, les victimes sont généralement des personnes innocentes. L'Irlandie a certainement condamné l'acte lâche comme ceci. Mais d'autre part, elle continue d'accroître la vigilance parce que qu'une telle chose pourrait toujours se produire dans le pays. Chers amis, c'était le commentaire de la Voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Sajem Langton, bonsoir. Voici l'histoire d'aujourd'hui qui s'agit d'événements importants. Nous commençons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement Rod Amundsen atteint le pôle sud le 14 décembre 1911. À 15 heures, le Norvégien Rod Amundsen est le premier homme à atteindre le pôle sud parti le 19 octobre 1911 de sa base de la baie des Baleines avec 4 hommes et 52 chiens. Il a devancé d'un mois son concurrent, le Britannique Falcon Scott, pourtant parti 4 jours plus tôt. Amundsen a hissé un mât haut de 4 mètres aux couleurs du drapeau norvégien dès son arrivée au pôle. L'autre information est sur l'Israël a conquis le plateau du Golan. Le 14 décembre 1981, l'Israël a ratifié la loi au Parlement que le Golan fait partie de leur territoire. Mais trois jours plus tard, le 17 décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a cité la résolution 497 qui mentionne que la propriété d'Israël envers le Golan illégalement. La réaction de l'ONU à ce moment a montré que la communauté internationale n'a jamais accepté l'arrogance coloniale et le régime sioniste d'Israël. Mais l'Israël n'a jamais se conformé à la loi et aux résolutions internationales avec diverses intrigues qui continuent à essayer de consolider sa position dans ses colonies, y compris le plateau de Golan en Syrie. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec la journée de l'histoire de l'Indonésie. La journée de l'histoire de l'Indonésie a finalement déclaré dans le séminaire de l'appréciation historiographique avec le thème « La science historique et les futurs défis » organisé par le ministère de l'Éducation et de la Culture tenu à Yogyakarta du 5 au 8 mai 2014 sur la base de la décision du forum. La journée nationale de l'histoire est fixée le 14 décembre. Cette désignation se référence à l'organisation du premier séminaire de l'histoire de l'Indonésie du 14 au 18 décembre 1957. Sur la base de la décision du forum, la journée d'histoire d'Indonésie est fixée le 14 décembre. Cette fixation était prise parce que cette date est l'élan du début du changement de vue dans l'écriture de l'histoire des Pays-Bas centristes à la perspective Indonésie centriste. L'existence de la journée d'histoire de l'Indonésie pourrait favoriser un amour pour l'histoire de l'Indonésie. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Vous êtes toujours avec La Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, un grand merci de votre fidélité d'écouter La Voix de l'Indonésie. Avant d'écouter le rappel des titres de l'actualité, nous vous présentons d'abord la mise au point sur l'environnement.
Mise au point sur les infos et événements quotidiens.
Chers fidèles auditeurs et auditrices, bonsoir. Nous continuons notre programme avec la mise au point sur l'environnement et pour le titre 2016, l'année de la liberté de la catastrophe de Fumi. Après près de deux décennies, finalement, les gens dans les zones sujettes aux incendies de forêt et de terre au Karhutla, en particulier à Sumatra et Kalimantan, pouvaient sentir l'année sans catastrophe de la Fumi. Jusqu'en novembre, le nombre de points chauds au niveau national diminue 70 à 90%. Rapporté à la ministre des Forêts et de l'Environnement, c'est une Nurbaya aux médias vendredi le 9 décembre à Jakarta. Selon la ministre Siti Nurbaya, pour la première fois en 2016, l'Indonésie n'a pas subi significativement l'incendie de terre et l'incendie de forêt parce que toutes les régions peuvent être gérées ensemble. La diminution de points chauds dans tout le pays jusqu'à 80 à 92% selon la méthode de NOAA et Terra, a dit la ministre Siti Nurbaya. Le nombre de points chauds en 2016 par rapport à l'an 2015 pour la période du 1er janvier au 9 décembre sur la base d'observation satellitaire de NOAA du 8-19 a diminué plus de 21 000 à environ 3 000 en 2016. Pendant ce temps, sur la base du satellite Terra ou Aqua de la NASA, dans la même période, le nombre de points chauds en 2016 réduit beaucoup. L'année précédente a enregistré 70 252 points chauds, mais cette année a 3 814 points chauds. Tout cela, a-t-elle dit, est grâce à des efforts comme les patrouilles qui sont menées tous les jours, ainsi que les opérations de 23 unités hélicoptères, les bombardements de l'eau à environ 92 millions de litres d'eau, tentatives de pluie artificielle ainsi que des mesures d'application de la loi par le biais de sanctions administratives, civiles et pénales. Des sanctions administratives qui sont effectuées pour la première fois dans les crimes forestiers, à savoir la révocation de licences, la congélation et les sanctions imposées par le gouvernement, a confirmé la ministre Siti Nurbaya. La ministre Siti a révélé la diminution assez significative n'est pas séparée des efforts inlassables de l'équipe intégrée sur le terrain. Ils travaillent sans connaître le jour férié, même ils passent la nuit sur les lieux pour garder la propagation des points chauds. L'emplacement qui était difficile à atteindre par la voie terrestre, faire disparaître par la voie aérienne. Afin de maximiser les efforts pour contrôler les incendies de terre et de forêt, le gouvernement provincial a également fixé l'état d'alerte d'urgence de la gestion des catastrophes de Fumi à cause des incendies de forêt et de terre, comme dans la province de Riau, Sumatra du Sud, l'ouest de Kalimantan, Kalimantan Central, Jambi et le sud de Kalimantan. Selon elle, divers défis existent encore, à savoir les efforts de prévention de la gestion de passage ou de la région ou de la zone, à la fois dans la zone et sur le terrain de la communauté, ainsi que dans un système d'arrêt précoce qui est plus systématique. Le ministre Siti Nurbaya est sûr, avec l'unité et le sérieux de toutes les parties, d'être responsable et plein de l'honnêteté et de regarder les conditions existantes. Les problèmes écologiques qui sont chroniques peuvent être surmontés certainement. Serviteur, c'était la mise au point sur l'environnement.
Dans le cadre du 5e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, ou ONUD, le ministère indonésien des Affaires étrangères, en coopération avec le représentant de l'ONUD en Indonésie, a organisé un symposium intitulé « Construire sur la dynamique, renforcer le rôle de l'industrie pour le développement durable ». Le symposium a eu lieu au ministère des Affaires étrangères, Jakarta, le mardi 13 décembre 2016. Il vise à informer au public sur le programme de l'ONUD qui vise à accroître la valeur et la productivité de l'industrie. Le conseiller de la diplomatie économique au ministère des Affaires étrangères, M. Ridwan Hassan, dans un discours à l'ouverture du symposium, a déclaré que le 5e anniversaire de la fondation de l'ONUD a souligné le rôle important dans l'industrie pour le développement durable.
This symposium is in fact part of the government's commitment.
Le symposium est une preuve de l'engagement du gouvernement de renforcer et d'accroître la capacité industrielle, ce qui peut contribuer à la réalisation du développement durable. Selon M. Ridwan Hassan, l'industrie a le rôle dans l'élimination de la pauvreté, l'autonomisation des femmes et l'inclusion sociale, en plus d'augmenter la sensibilisation du public liée au rôle du gouvernement dans l'application de l'ordre du jour en 2030, ce symposium a souligné l'importance de l'innovation, l'information et la technologie dans la réalisation des objectifs de développement durable. Ce symposium a été assisté par des représentants de l'ambassade des API et institutions apparentées. Le président indonésien Joko Widodo a rencontré 20 dirigeants des entreprises Kono Anandi, comme cité par Antara dans la deuxième jour de la visite de travail à New Delhi. Mardi, le président Joko Widodo avec son épouse Madame Iriana Joko Widodo ont effectué une réunion amicale avec la communauté indonésienne qui habite à Nandi. En outre, le président et sa suite sont partis pour Téhéran mardi après-midi. Le président et Madame Iriani sont accompagnés d'un certain nombre de ministres du cabinet de travail, y compris le ministre de coordination des affaires économiques, Darmin Nasution, le secrétaire d'État Pratikno, ministre des affaires étrangères, Madame Retno Marsudi, et ministre du commerce, Enggar Tiaso Lukito. Le gouvernement de l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie commencent à faire la sécurité multicouche dans la mer de Sulu depuis le 23 novembre 2016 sur la base de l'accord trilatéral signé à Mani, les Philippines. Le directeur de la protection des citoyens indonésiens et des entités juridiques du ministère indonésien des Affaires étrangères, M. Lalu Muhammad Iqbal, mardi a déclaré que la sécurité en couche sur la base de l'accord trilatéral d'Indonésie, les Philippines et la Malaisie se compose des patrouilles conjointes, les patrouilles coordonnées et la patrouille convoi. La sécurité maritime par l'accord trilatéral a été initiée par le gouvernement indonésien pour répondre à la piraterie dans les eaux de Sulu bordant la Malaisie et les Philippines. Selon M. Muhammad Iqbal, les patrouilles conjointes impliquent des instruments de sécurité maritime des trois pays, des patrouilles coordonnées menées par chaque pays en informant leurs positions respectives, de sorte qu'il n'y a pas de lacunes qui peuvent être exploitées par les pirates dans les eaux de Sulu. Cependant, les patrouilles de convoi sont effectuées notamment pour escorter les navires de pêche qui n'ont inclus des lignes de couloirs maritimes. Selon M. Mohamed Iqbal, l'étroit sécurité rend difficile pour les pirates de l'air de se déplacer. Vous écoutez le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta. Un conseiller et un membre exécutif du Conseil supérieur de la paix de l'Afghanistan, Abdul Hakim Mujahid, a déclaré que les Indonésiens peuvent vivre en harmonie et en paix dans divers différents peuvent être un modèle pour la paix en Afghanistan. C'est ce qu'a déclaré Abdul Hakim Mujahid lors de rencontrer le vice-président indonésien Yusuf Kalla mardi au bureau du vice-président Jakarta. Il a dit qu'il avait discuté de la façon d'atteindre la paix et la réconciliation en Afghanistan en étudiant l'expérience de l'Indonésie où il y a une harmonie dans la différence. Abdul Hakim Mujahid a ajouté que le gouvernement et les divers éléments de la société dans les efforts en Afghanistan pour créer de la paix et la réconciliation dans son pays. Il croit aussi que la paix sera réalisée dans le pays. Selon lui, il existe une coopération avec l'Indonésie pour presque 99% de l'Afghanistan étant musulman qui est devenu une partie des frères musulmans. La province de Sulawesi du Sud a l'intention d'exporter des fruits vers l'Arabie Saoudite. Le marché aux fruits en Arabie Saoudite est potentiel, notamment avec l'existence des pèlerins Umrah de l'Indonésie qui est relativement grand. Selon le consul général indonésien à Jeddah, M. Heri Saripuddin, la part de marché des fruits en Arabie Saoudite est très potentielle. Sur la base de données des Nations Unies sur les statistiques commerciales des produits de base 2015, la valeur des exportations de fruits indonésiens chaque année a augmenté significativement. M. Heri Saripuddin, lors de la réception de la délégation d'investissement et de commerce du ministère de l'Agriculture de Sulawesi du Sud, à Jeddah, a déclaré mardi que la tendance de l'augmentation de la valeur des exportations de fruits a montré la part des fruits indonésiens du marché sont très grands. Le gouverneur de Nusa Tenggara Est, M. Frans Leburaya, a demandé au gouvernement central de réaliser Lembata, Alor et Larantuka comme zone économique spéciale. Dans son discours, il a affirmé que Lembata, Alor et Larantuka avaient un fort potentiel économique à partir du secteur du tourisme, maritime, l'agriculture et plantation. France a souligné spécialement le potentiel dans le secteur du tourisme de ces trois régions. Mais il a admis l'infrastructure pour la connectivité de trois régions avec d'autres régions était encore très limitée. Par conséquent, il a demandé au gouvernement central d'ouvrir l'isolement physique de ces régions afin que les gens soient venus à cette zone. Chers amis, c'était le journal de la Voix de l'Indonésie diffusé depuis Jakarta.
Vous êtes toujours avec la Voix de l'Indonésie à Jakarta. Vous pouvez aussi nous écouter par Internet sur le site www.voi.co.id.
Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine culturel et apprendre l'indonésien.
Écoutez des informations et les arts et cultures indonésiens dans le programme quotidien Tout de beauté en Indonésie.
Bonsoir à tous, rencontrons-nous à nouveau dans notre magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter Sumatra Ouest. Alors restez avec nous, La Voix d'Indonésie, le service international de Radio République Indonésienne. Outre les ondes courtes, vous pouvez aussi écouter nos émissions sur www.voi.co.id. Serviteurs, si vous voulez profiter de phénomènes naturels magnifiques, nous vous conseillons d'aller au lac de Tarusan Kamang à Sumatra Ouest. Ce lac est tout à fait unique car il contient d'eau dans un certain temps. Un jour, on le voit tellement large comme le lac en général, mais dans un temps inattendu, ce lac peut changer pour être des pâturages verts étendus. En devenant le lac, au milieu du lac, il y a comme un monticule de terre qui n'est pas inondé par l'eau. Pour cette raison, les populations locales l'appellent Danau Dua Muka ou lac à deux faces. Chers auditeurs, la disparition de l'eau du lac dans la terre est apparue à l'écart des pâtureuses vertes sans être capable de deviner le temps censé de se produire en raison d'existence d'une rivière souterraine comme lac karstique. Lorsque l'eau souterraine monte, le couloir au-dessous de la colline calcaire pousse l'eau et couvre les pâtureuses. Il semble le grand lac, alors que lorsque l'eau de la rivière souterraine et en baisse de sorte qu'il semble juste prairie. Au lac, les visiteurs peuvent profiter de la pêche et jouer au ballon tout en appréciant le paysage qui est vraiment magnifique et encore naturel pour qu'il soit adapté pour vous qui ont le passe-temps de la photographie. Si vous aimez descendre la grotte, il y a beaucoup de grottes actives sur les collines karstiques. Dans le passé, le lac de Tarusan Kamang était seulement grand cham qui n'a jamais été considéré comme objet touristique. Ce lac a commencé à être bien connu depuis un photographe a pris des photos de ce lieu et certaines personnes ont téléchargé les images sur les médias sociaux. Cet endroit est également devenu l'emplacement d'un film tenggelamnya kapal Van der Wijk. Le lac Tarusan Kamang est situé à Nagari Kamang Mudiak, sous-communauté de Kamang Mage, la région d'Agam, en province de Sumatra-Ouest. De Bukit Tinggi, vous pouvez conduire une voiture privée ou aller en transport en commun à partir du terminal Aur Kuning à Bukit Tinggi. La distance est d'environ 20 km de Bukit Tinggi et prend environ 30 minutes. Chers auditeurs, c'est le magazine Culture pour ce soir avec le titre « Le lac de Tarusan Kamang ». Demain, nous nous retrouvons avec un sujet plus intéressant encore. À bientôt!
Et parler l'indonésien, vous pouvez écouter notre programme Aller apprendre l'indonésien.
Chers auditeurs et auditrices, où que vous soyez, nous revenons dans la rubrique Apprendre l'indonésien qui vous introduit les vocabulaires indonésiens et l'utilisation dans une conversation. Le sujet aujourd'hui est hobby ou en français le loisir. Restez avec nous sur www.voi.co.id. Chers amis, comme d'habitude, je vais tout d'abord prononcer des vocabulaires et des expressions par rapport au thème d'aujourd'hui. Je vais prononcer lentement deux fois par mot et vous le répéterez après. Hobby. Hobby. En français, le loisir. Akhir pekan. Akhir pekan. En français, le week-end. Suka. Suka. En français, aimer. Olahraga. Olahraga. En français, le sport. Nonton TV. Nonton TV. En français, regarder la télévision. Memancing ikan. Memancing ikan. En français, pêcher. Menyanyi. Menyanyi. En français, chanter. Menari. Menari. En français, danser. Mendengarkan musik klasik. Mendengarkan musik klasik. En français, écouter de la musique classique. Nonton film. Nonton film. En français, voir un film. Nanti malam. Nanti malam. En français, ce soir. Nonton sama-sama. Nonton sama-sama. En français, voir un film ensemble. Jam berapa? Jam berapa? En français, à quelle heure? Jam tujuh malam. Jam tujuh malam. En français, à 19h. Bien, maintenant, on va mettre ces vocabulaires et expressions dans une conversation. Comme d'habitude, je vais prononcer lentement la conversation deux fois et vous allez donc la suivre après moi. Cette conversation est entre Danu et Dodi. Apa yang suka kamu lakukan di saat akhir pekan? Apa yang suka kamu lakukan di saat akhir pekan? En français, qu'est-ce que tu aimes faire le week-end? Aku suka berolahraga, menonton TV, dan memancing ikan. Kalau kamu? Aku suka berolahraga, menonton TV, dan memancing ikan. Kalau kamu? En français, j'aime faire du sport, regarder la télévision et pêcher. Et toi? Aku suka menyanyi, menari, dan mendengarkan musik klasik. Aku suka menyanyi, menari, dan mendengarkan musik klasik. En français, j'aime chanter, danser et écouter de la musique classique. Apa kamu suka nonton film? Apa kamu suka nonton film? En français, tu aimes voir un film? Ya, suka. Ya, suka. En français, oui, je l'aime. Kalau begitu, bagaimana kalau nanti malam kita nonton sama-sama? Kalau begitu, bagaimana kalau nanti malam kita nonton sama-sama? En français, donc si on voyait un film ensemble ce soir? Baik, jam berapa? Baik, jam berapa? En français, d'accord, à quelle heure? Jam tujuh malam. Jam tujuh malam. En français, à 19h. Baik, aku tunggu kamu di rumah. Baik, aku tunggu kamu di rumah. En français, c'est bon, je t'entends chez moi. Chers auditeurs et auditrices, voilà l'édition de Apprendre l'Indonésien d'aujourd'hui. Merci beaucoup de votre fidèle attention et au revoir.
Comme la fin de notre émission, voici le magazine musical.
Couleur du son, programme des musiques et des chansons indonésiennes.
Bonsoir, chers amis. Merci d'écouter La Voix d'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici le programme musical. Vous pouvez écouter nos émissions sur la fréquence de 9525 kHz ou en streaming de www.voe.ac.id. En outre, vous pouvez également écouter nos émissions par l'application sur RRI Play. Pour l'édition de ce soir, nous vous présentons une chanteuse pop d'Indonésie qui s'appelle Mayang Sari. Voici la première chanson de Mayang Sari intitulée « Il n'y a plus ». Bonne écoute.
Sia-sia sudah kita jalin cinta, bila hati selalu berbeda. Musik. masih bersatu, tak mungkin kan menyatu. Walau masih ada sisa cinta, biarkan saja berakhir sampai di sini.
Dan padiri
Chers auditeurs, c'était la chanson de Mayang Sari intitulée Il n'y a plus. Si vous voulez envoyer une lettre par courrier électronique à french@voe.ca.id, et nous vous invitons également à rejoindre La Voix de l'Indonésie sur Facebook Voice of Indonesia ou à nous suivre sur Twitter @voeindonesia. La chanson Il n'y a plus a popularisé une chanteuse multitalentueuse, Mayang Sari. Cette chanson est la deuxième production du premier album, produit autour des années 90. Depuis la deuxième production, la réputation de Mayang Sari a commencé à être prise en compte parmi les chanteurs pop indonésiens. En plus de chanter, une chanteuse née à Purwokerto le 23 août 1974 est aussi bonne de chanter les chansons javanaises. Son talent provient de son père qui travaille comme un marionnettiste et sa mère comme sinden ou chanteuse de chansons javanaises. Bon, chers auditeurs, écoutons maintenant la chanson suivante de Mayang Sari intitulée « Bonne écoute ». Chers amis l'antenne, je vous rappelle que vous êtes avec nous dans le programme Le Magazine Musical avec une chanteuse talentueuse, Mayang Sari. Après s'être mariée, les activités de Mayang Sari ont commencé à diminuer. Elle s'occupe d'affaires de famille, tandis que les activités de chant sont effectuées uniquement pour l'événement qui est considéré comme important. Bon, chers auditeurs, avant de terminer notre programme, voici les deux dernières chansons de Mayang Sari intitulées « Il faut cette nuit » et « Rasa cintaku ». Bonne écoute et à bientôt.
Di dalam hatimu.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements.
Vous êtes toujours avec nous, Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, sur les fréquences ondes courtes 15150, 9525 et 11785 kHz, le programme de l'émission en français. Vous pouvez aussi écouter nos émissions via l'Internet sur www.voi.co.id.
C'était notre programme pour ce soir. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À bientôt.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie.
Informing, connecting, dignifying.
Radio République Indonesia, Service International, La Voix d'Indonésie, présente des nouvelles, des informations actuelles et des divertissements. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours sur les fréquences ondes courtes de 15150, 9525 et 11785 kHz. Le programme de l'émission en français ou écouter l'audio sur demande sur www.voi.co.id.
Envoyez vos critiques et vos suggestions à notre adresse email info@voi.co.id ou envoyez vos courriers à Émission en français de la Voix d'Indonésie de la Radio République Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat 4 et 5, Jakarta, ou PO Box 1157 Jakarta 1011, Indonésie. Vous pouvez rejoindre au Facebook Voice of Indonesia et Twitter Voice Indonesia. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.